On pourrait dire que le libre arbitre, c'est ce que votre calculatrice n'a pas. Quand vous tapez 2 plus 2 sur votre calculatrice, elle vous répondra 4. Elle va jamais vous répondre 5. Elle va pas vous dire, ah, il m'a tapé trop fort sur les touches hier, donc je vais me venger, aujourd'hui je vais lui dire 5. Et puis demain je lui dirai 3. Non, elle tape, elle donnera toujours son résultat 4. Elle n'a pas de libre arbitre. En revanche, l'être humain est capable de dire 2 plus 2 font 5. Et il peut même savoir que 2 plus 2 fait 4, mais il vous dira, parce qu'il en a envie, parce qu'il fait ce choix, que 2 plus 2 font 5. Il y a une liberté du choix qui le distingue de l'ordinateur qui ne fait qu'appliquer son programme, qui est prédéterminé. L'hypothèse de l'hypocatastase imagine que, à la fin, Dieu, d'une certaine manière, fait sauter le verrou du cœur de l'homme, du cœur de la créature, pour l'obliger à le reconnaître et à l'aimer. Les tenants de cette hypothèse ne se rendent pas compte que, en imaginant que Dieu force le cœur, on fait disparaître la réalité de l'amour. La réalité de l'amour, c'est un acte libre, c'est un acte profondément libre. L'amour vécu en Dieu et jusqu'au cœur de la Trinité est un amour infiniment gratuit. Mais si Dieu force le cœur, alors ça veut dire que le don de la liberté ne nous était pas fait. Ça veut dire aussi que nous ne pouvons pas aimer librement comme Dieu aime, puisque Dieu aime librement, et si nous ne pouvons pas aimer librement, nous n'aimons pas comme lui. Et si nous n'aimons pas comme lui, eh bien nous ne participons pas à sa vie, qui est d'aimer librement et gratuitement. Dieu est libre, Dieu possède le libre arbitre, et nous qui sommes à son image, il nous en a fait aussi le don pour que nous puissions aimer comme lui. Faire sauter le libre arbitre en imaginant qu'il serait contraint à la fin de reconnaître la bonté de Dieu, obligé, c'est en fait faire disparaître la liberté et donc faire disparaître la capacité d'aimer comme Dieu aime et donc la capacité de partager sa propre vie. Nous ne sommes plus des partenaires de l'Alliance, mais nous sommes seulement, on pourrait dire, des peluches que Dieu place là où il a envie. Et voilà, la peluche, elle n'a pas d'histoire, elle n'a pas de volonté véritable, on ne tient pas compte de ses opinions, la peluche sera là où on la placera. Si Dieu force notre cœur, nous ne sommes pas des partenaires de l'Alliance, nous sommes simplement des peluches dans sa main. Alors comment faut-il comprendre cette phrase « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés » Comment est-ce qu'elle entre en application? Eh bien, il faut rappeler que le salut, c'est la participation à la vie de Dieu. La participation à la vie de Dieu, c'est la capacité d'aimer comme il aime, aimer librement, aimer gratuitement. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, ça signifie que Dieu veut que les hommes soient sauvés avec l'engagement de leur liberté créée à l'image de Dieu, dotée du libre arbitre, exerçant le libre arbitre, exerçant sa liberté. Et c'est pourquoi à la fois Dieu se révèle pour que nous puissions avoir connaissance de la vérité, et aussi Dieu nous donne sa grâce, la grâce suffisante pour que nous puissions répondre. La grâce suffisante pour que nous puissions nous engager, pour que nous puissions progresser. Le Christ est médiateur de salut pour tous les hommes, ça veut dire qu'il offre effectivement le salut à tous les hommes, mais il faut encore que la liberté de l'homme, le libre arbitre de l'homme s'engage pour accueillir ce salut que le Christ offre. Cela a des conséquences très pratiques sur notre espérance et sur notre prière. Première conséquence, nous espérons le salut pour toute personne jusqu'à son dernier souffle. J'allais dire, tant qu'une personne est vivante, tant qu'une personne est sur cette terre, nous devons espérer. Nous devons espérer parce que peut-être au dernier moment, au dernier souffle, elle peut accueillir la grâce de Dieu. Ne désespérons jamais en nous disant « il est trop loin de Dieu » ou même « je suis trop loin de Dieu ». Jusqu'au bout, Dieu nous offre sa grâce. Deuxième conséquence, quand nous prions pour la conversion de quelqu'un, nous ne demandons pas que Dieu force le cœur de l'autre en écrasant sa liberté. En revanche, nous demandons que son intelligence puisse être débarrassée, délivrée de ses erreurs, et nous demandons que son cœur engage sa liberté pour accueillir l'invitation de Dieu. On prie le Seigneur en disant, voilà, puisse sa liberté s'ouvrir pour accueillir ta grâce. Il s'agit de frapper les portes pour que de l'intérieur on ouvre et non pas de fracasser la porte. Et il faut bien comprendre donc que la possibilité du châtiment éternel ne vient pas d'une mauvaise volonté de Dieu ou d'une vexation de Dieu qui ne passerait pas, mais elle provient de la persistance dans l'endurcissement de la liberté de la créature. La miséricorde de Dieu peut se saisir d'une poussière de bonne volonté, mais encore faut-il qu'elle soit là. Troisième conséquence, l'importance de prier pour les mourants. L'importance de prier pour les mourants pour que, justement, cette alliance de Dieu soit audible à leur cœur, encore une dernière fois, pour qu'ils s'y ouvrent totalement. Je vous souhaite de bons échanges, bonne rentrée à tous.